L'identité de Jésus entrevue par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste parle de l'agneau de Dieu. Ses disciples l'abandonnent pour suivre Jésus. La scène dont nous parlons ici se passe au début de la vie publique de Jésus. Le lendemain, Jean-Baptiste voit Jésus venant à lui et dit, Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. Évangile de Jean 1, 29. La grandeur et la beauté du Seigneur ne sont pas banales. Au premier coup d'œil, cet homme en impose et Jean-Baptiste, tourmenté par le destin tragique qui se lit sur ses beaux visages, s'écrie « Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés du monde. » L'agneau pour un juif, c'était le sacrifice pour les péchés. C'était la victime de l'Holocauste, complètement détruite en expiation. Voici donc l'idée que j'appelle Jésus, la victime de l'unité. Pour lui qui enlève le péché du monde, il est porteur de la grande espérance, entrevue par tous les croyants et les prophètes d'Israël. Un monde réconcilié avec Dieu, où le péché ne régnera plus en maître. Et il ajoute, c'est lui dont j'ai dit, derrière moi vient un homme qui a passé devant moi. Évangile de Jean 1, 30. Jean-Baptiste réalise toute la supériorité de ce Christ qui vient après lui, mais qui existait avant lui. Bien plus, lui, Jean-Baptiste, n'a de rôle ici-bas que pour préparer la venue de cet être unique. Toute prédication n'est que la préparation du ministère du Christ. Jésus dira à ses apôtres, Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous coûte nulle peine, d'autres ont pris peine et vous êtes entrés dans leur labeur. Évangile de Jean 4, 38. C'est de Jean-Baptiste dont il parlait ainsi. Le dernier des prophètes ne peut que poursuivre l'œuvre commencée par tous les voyants d'Israël, acheminée vers le Messie. C'est tout le sens de sa mission et l'aboutissement de toute la vie du peuple de Dieu. Son enthousiasme sera communicatif. Ses propres disciples les quittèrent pour suivre Jésus. Il leur décrit Jésus en des termes qui leur a permis de pressentir l'identité de l'élu des dieux, rempli de l'Esprit Saint, et dont le feu purifiant est l'amour incréé, se déversant sur les êtres fragiles que nous sommes. Et Jean rendit témoignage en disant, J'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe, et il est demeuré sur lui, et pour moi je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau. Celui-là m'a dit, Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. C'est bien ce que j'ai vu, et j'ai rendu témoignage que celui-ci est l'élu des dieux. Évangile de Jean 1, 32 à 34. Jésus est l'amitié, la première rencontre. Jésus est l'homme de l'amitié. Il fascine les hommes qu'il rencontre. Les disciples qui entourent les Baptistes sont des tout jeunes hommes. Lui-même à l'âge du Christ, une trentaine d'années. Toute cette jeunesse enthousiaste de Galilée l'a suivi vers Aïnon, où il les baptise dans les eaux du Jourdain. Il y a là en particulier Jean et André, ceux qui les premiers entreprendront la démarche d'aborder les prophètes après ce qu'ils auront entendu dire par Jean-Baptiste lui-même. Jésus est l'élu des dieux, l'agneau des dieux qui enlève les péchés du monde. Ils aspirent tous à un monde nouveau de justice et d'amour. Le lendemain, Jean se trouvait encore là, ainsi que deux de ses disciples. En attachant son regard sur Jésus qui passait, il dit, Voici l'agneau des dieux. Et les deux disciples entendirent ce qu'il disait et suivirent Jésus. Évangile de Jean 1, 35 à 37. Jésus qui passe, et en voilà assez pour bouleverser les cœurs des jeunes Galiléens, disciples du Baptiste. Ils abandonnent le Maître qu'ils ont aimé pour s'attacher à cet agneau des dieux, que sa noblesse, plus encore peut-être que l'accent ému des Jean le Baptiste, désigne à leur cœur de 20 ans. Les voilà séduits. Ils les suivent, frappés par la grandeur de cette figure que leurs yeux ont croisée sur le chemin. Et 60 ans plus tard, tous les détails de cette scène restent gravés dans leur cœur, comme au jour de cette première et inoubliable rencontre avec le Maître qui les a conquis. Ils se souviennent encore du geste de Jésus qui se retourne. Jésus, s'étant retourné et voyant qu'André et Jean les suivent, leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez et voyez. » Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Évangile de Jean 1, 38 à 39. Jésus est attentif aux autres, et sa question « Que cherchez-vous ? » redonne confiance à André et Jean, qui osent alors lui poser la question qui va changer le cours de leur existence. « Maître, où demeures-tu ? » Et son invitation se fait nette et directe, en deux impératifs, « Venez et voyez. » Ils se souviennent même encore de l'heure de cette rencontre. C'était un peu après la 10e heure. Évangile de Jean 1, 38. André, le frère de Simon, était un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui l'avait suivi. Il va trouver donc tout d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie. » Évangile de Jean 1, 40 à 41. La découverte de Jésus est si prenante, si passionnante, qu'on ne rêve plus que d'une chose lorsqu'on les connaît soi-même, le faire connaître à d'autres. André n'a passé qu'une soirée et une nuit avec le Christ, et le voilà déjà qui parle avec enthousiasme à son frère Pierre. Et il l'amena à Jésus. Évangile de Jean 1, 42. André emmena donc Simon à Jésus. Jésus, arrêtant son regard sur lui, dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Kephas, ce qui signifie Pierre. » Évangile de Jean 1, 42. Jésus a une manière de parler qui témoigne d'une certitude intérieure qui bouleverse ses interlocuteurs, car dans cette première rencontre avec Pierre, Jésus plonge son regard dans l'âme de Simon. Et ce regard pénètre si avant qu'il définit l'apôtre et lui donne ce nom qui signifie tout l'être, ce nom que seul Dieu connaît et peut trouver. Pour chacun de nous d'ailleurs, avec la même acuité, un jour le regard de Jésus plonge dans l'âme et nous donne notre nom, notre définition que lui seul connaît et nous révèle. Le regard de Jésus pénètre. Il rentre loin dans les cœurs et juge de leur valeur d'un seul coup. Son regard pénètre au-delà de l'homme présent pour atteindre toute la vie et en définir le rôle providentiel. Tu t'appelleras Kephas, ce qui signifie Pierre. Après André, Jean, Pierre, il en sera de même pour Philippe, conquis d'emblée par le Seigneur. Le lendemain, Jésus résolut de partir pour la Galilée. Il va trouver Philippe et Jésus lui dit « Suis-moi ». Or Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Évangile de Jean 1, 43 à 45. Philippe va trouver Nathanaël et lui dit « Celui de qui ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph, Jésus de Nazareth. » Et Nathanaël lui dit, « De Nazareth peut-il venir quelque chose de bon ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Évangile de Jean 1, 45 à 46. Philippe lui aussi traduit sa découverte à Nathanaël avec enthousiasme, reprenant le vieux mot d'Archimède qui explose ici comme un cri de joie et de libération. Eureka! Nous avons trouvé. Ils ont découvert, en effet, celui-là même dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes nous ont entretenus. Pour un juif pétri de toute cette attente rendue plus lancinante depuis l'occupation romaine, quel beau jour que celui de cette rencontre où le grand prophète a laissé tomber ces mots à son regard, accompagne-moi. Jean, André, Pierre, Philippe, Nathanaël font tous partie du groupe de Jean-Baptiste, puisque Jésus les rencontre avant de regagner la Galilée. Tous ces jeunes vont quitter Jean-Baptiste pour s'engager avec cet homme dont le regard et les paroles les ont bouleversés. Pour eux, ils réalisent l'espérance d'Israël, et leurs sentiments se résument bien dans le cri d'André adressé à son frère. Nous avons trouvé les Messies. Les noces de Cana. L'impératif de Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus est pleinement homme, prenant part à nos fêtes et à nos deuils. Voilà comment il se révèle à nous aux noces de Cana, en Galilée. La noce, c'est la noce, et les disciples se réjouissent avec tous les convives. Tant est si bien qu'il n'y a plus de vin. Mais il ne trahira pas l'amitié, ni celle de sa mère, ni celle des époux. Il saura d'un mot changer l'eau en vin et permettre à la fête de continuer comme si de rien n'était. Merveilleux Seigneur de la vie et de l'espérance. Il semble, à la lecture attentive du texte, que la nuance de mépris marquée par certaines traductions à l'endroit de sa mère, « Qu'importe à moi et à toi, femme, mon heure n'est pas encore venue », Évangile de Jean 2, 4, il semble que cette nuance n'existe ni dans les textes grecs, ni dans les textes latins. Le mot « femme » sera celui-là même que Jésus emploiera à nouveau pour s'adresser à sa mère au calvaire. Du haut de la croix. Marie fait remarquer à Jésus qu'ils n'ont plus de vin et qu'au fond, tout cela c'est de sa faute car ses disciples, en bons marins qu'ils sont, ont fait honneur au banquet et trinqué fortement, fermement. Marie marque donc simplement l'ennui de ses hôtes. Ils n'ont plus de vin. Jésus répond de même, ce n'est pas notre affaire. Ni à toi, ni à moi, d'ailleurs, l'heure de me manifester n'est pas encore venue. C'est-à-dire, l'heure du royaume n'est pas encore arrivée. Mais Marie poursuit sa pensée profonde. Cela, elle le sait bien, mais ici, elle engage Jésus à agir. Par une petite phrase anodine, au nom de l'amitié, et là, elle est sûre. Il interviendra. Aussi dit-elle au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Évangile de Jean 2, 5. Jésus, comme sa mère, sait voir les situations difficiles et embarrassantes. La réflexion de sa mère, ils n'ont plus de vin, l'amène à agir. Les mariés et leurs parents n'auront pas à rougir, et la noce finira joyeusement. Jésus leur dit, remplissez d'eau les cuve, et ils les remplirent jusqu'en haut, et il leur dit, puisez maintenant et portez au maître d'hôtel, et ils le portèrent. Évangile de Jean 2, 7 à 8. Il y a similitude des pensées entre la mère et le fils. Il s'agit d'écouter et de faire. Faites tout ce qu'il vous dira. Les paroles vécues sont la preuve de l'amitié vivante entre Jésus et nous. On rejoint alors les paroles de Jésus à ses apôtres après la scène. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera. Évangile de Jean 14, 23. C'est un des impératifs de Marie. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Puissions-nous écouter ses paroles et le mettre en action. Aux noces de Cana, la confiance de Marie force la volonté de son fils. Elle nous indique, par le fait même, le moyen d'avancer cette heure qui n'est pas encore venue d'établir le royaume. Il s'agit simplement de réaliser en nous tout ce que Jésus nous dit, d'être attentif à sa parole. Alors le miracle de notre transformation n'est pas loin. Bientôt, comme le vin de Cana remplace l'eau, Dieu remplacera toute notre vie naturelle par sa riche vie divine. Pour cela, suivons les conseils de Marie. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Évangile de Jean 2, 5. Jésus est l'amitié. Il nous connaît, il sait ce qu'il y a dans l'homme. Nous pouvons nous confier au Seigneur, car il connaît l'homme, son amitié nous transformera. Jean, dans son évangile, nous dit que, mais lui, Jésus, ne se confiait pas à eux, car il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on rendît témoignage au sujet de l'homme, car lui-même savait ce qu'il y avait dans l'homme. Évangile de Jean 2, 24 à 25. Sécurité merveilleuse, assurée par cette connaissance de nous-mêmes que Jésus possède. Car si dans ce passage, l'évangéliste va jusqu'à dire « il les connaissait tous », c'est que le bien et le mal, nos qualités et nos défauts, nos efforts et nos défaillances, oui, il sait tout ce qu'il y a dans l'homme, et il nous connaît parfaitement. C'est donnant comme les bons pasteurs, il dira au chapitre 10 de Jean, verset 3, « Et le bon pasteur appelle ses brebis par leur nom, et il les conduit. » Il ajoutera ces paroles merveilleuses au verset 14 et 15, « Je suis le bon pasteur, et je connais mes brebis. Elles me connaissent, de la même manière que mon Père me connaît, et que je connais le Père. » Voilà donc l'étrange profondeur de la connaissance qu'il possède de chacun de nous. Cette connaissance de l'homme se révèle tout au long de l'Évangile. Jésus étonne ses contemporains par ses choix. Il n'a pas appelé au hasard ses apôtres. Il connaissait la solidité de Pierre, un roc, l'exubérance de Jacques et Jean, les fils du tonnerre. Il avait perçu la détresse morale du paralytique de Capharnaüm, comme celle de celui de Bézata. Mon fils, tes péchés te sont remis. Va, ne pêche plus. Il avait compris d'emblée l'agacement de Simon les pharisiens devant la pécheresse, mais lut tout aussi bien, comme dans un livre ouvert, les poèmes d'amour que cette femme méprisée écrivait au même instant de ses larmes. La foi du centurion païen l'enchante, tout comme celle de la syrophénicienne, mise à rude épreuve pourtant. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Évangile de Matthieu 15, 26. Il s'invite chez Zachée, le percepteur Oni, car lui connaît le fond du cœur de cet homme, capable du meilleur comme du pire. Il a même deux amis privilégiés dont il a découvert la vie profonde, rien que deux femmes avec qui il peut durant des heures parler du royaume, Marthe et Marie. Or, comme ils étaient en voyage, lui entra dans un certain bourg, une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Évangile de Luc 10, 38. Nous aussi recevons-le dans notre maison comme l'ami le plus sûr et le plus discret. Les vendeurs du temple, un vigoureux Seigneur. Jésus nous prêche l'énergie, non seulement par ses paroles. N'est-il pas l'homme des impératifs, mais aussi dans ses actes. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem, et il trouva dans les hiérons des gens qui vendaient des bœufs et des brebis et des colombes, et il trouva des changeurs sur leurs sièges. Et faisant un fouet avec des cordes, il les chassa du giron avec le brebis et le bœuf. Et il répandit la petite monnaie des changeurs et renversa leur table. Il dit à ceux qui vendaient les colombes, « Emportez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Les disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me consumera. » Évangile de Jean 2, 13 à 17. Jésus est capable de s'emporter pour la gloire de Dieu. Le texte de Jean nous montre bien la fougue du Seigneur, son action rapide et énergique en face de ceux qui avaient transformé le temple en marché, a dû réjouir Saint Jean bouillant, fils du tonnerre, comme l'appellera Jésus. Il décrit si bien la scène. Jésus venu prier dans les saints cette partie du temple où l'on venait se recueillir, sans la colère monter en lui devant cette profanation. Nous ne pouvons qu'admirer la splendide vigueur du Seigneur. Valse des tables et de la monnaie, valse des bancs des changeurs, seules les colombes qui l'ont racheté trouvent grâce. Les grands prêtres et les scribes, surpris et affolés, arrivent après la bataille. Pour Jésus, Dieu n'est pas un être lointain, mais le Père qu'il a envoyé et dont les Juifs doivent respecter le temple. C'est là, dans le silence, que l'on devrait les rencontrer, et non dans les tohu-vohu des marchands. Face à l'autorité du temple, qui n'accomplit pas son travail, en laissant s'installer le trafic dans les sanctuaires, Jésus manifeste une liberté d'esprit absolue. Il ne mâche pas ses mots. Les Juifs lui demandent des comptes. Les Juifs donc prirent la parole et lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus répondit et leur dit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Évangile de Jean 2, 18 à 19. Devant les princes de prêtres, Jésus ne se démonte pas. Il répond faisant appel à son identité profonde, et à un pouvoir que ses interlocuteurs ne saisissent pas du tout d'ailleurs. Ses disciples eux-mêmes se souvinrent de cette prédiction après sa résurrection. C'est cela qu'il disait. Évangile de Jean 2, 18 à 21.